Chapitre 2. Nous ne fûmes pas insensibles à ce récit, Madame Darcy et moi. Nous nous sentîmes attendris pour cette femme qui, dans une aventure aussi douloureuse, avait su moins disputer que pleurer. Nous donnâmes de grands éloges à la bonne action de notre hôtesse et nous voulûmes toutes deux y avoir part. Le maître de cette auberge est apaisé, lui dîmes-nous. Il attendra, mais ce n'est pas assez. Cette femme est sans argent apparemment. Elle sort de maladie, à ce que vous dites. Elle a encore une semaine à passer chez cet homme, qui n'aura pas grand écart à l'état où elle est, ni au ménagement dont elle a besoin dans une convalescence aussi récente que la sienne. Ayez la bonté, madame, de lui porter pour nous cette petite somme d'argent que voici. C'était 9 ou 10 écus que nous lui remettions. « Oh, de tout mon cœur, reprit-elle, j'y vais de ce pas, et elle partit. » À son retour, elle nous dit qu'elle avait trouvé cette femme au lit, que son aventure l'avait extrêmement émue et qu'elle n'était pas sans fièvre, et qu'à l'égard des 10 écus que nous avions envoyés, ce n'avait été qu'en rougissant qu'elle les avait reçus, qu'elle nous conjurait de vouloir bien qu'elle ne les prît qu'à titre d'emprunt, que l'obligation qu'elle nous en aurait en serait plus grande et sa reconnaissance encore plus digne d'elle et de nous, qu'elle devait en effet recevoir incessamment de l'argent et qu'elle ne manquerait pas de nous rendre le nôtre. Ce compliment nous ne déplut point, au contraire, il nous confirma dans l'opinion avantageuse que nous avions d'elle. Nous comprîmes qu'une âme ordinaire ne se serait point avisée de cette honnête et généreuse fierté-là, et nous nous en sûmes que meilleur gré de l'avoir obligée. Je ne sais pas même à quoi il tint que nous la laissions la voir, tant nous étions prévenus pour elle. Ce qui est sûr, c'est que je pensais le proposer à Madame Darcy, qui de son côté m'avoua depuis qu'elle avait eu envie de me le proposer aussi. En mon particulier, je plaignis beaucoup cet inconnu, dont la fortune me fit encore songer à ma mère, que je ne croyais pas à beaucoup près dans des embarras comparables, ni même approchant des siens, mais que j'imaginais seulement dans une situation peu convenable à son rang, quoique supportable et peut-être douce pour une femme qui aurait été d'une condition inférieure à la sienne. Je n'allais pas plus loin, et à mon avis, c'était bien d'en imaginer assez pour la plaindre et pour penser qu'elle souffrait. L'impossibilité de la trouver m'avait déterminé à laisser passer 8 ou 10 jours avant que de retourner chez le marquis son fils, qui devait, dans l'espace de ce temps, être revenu de la campagne, et chez qui je ne doutais pas que je n'eusse des nouvelles de ma mère, qui aurait été aussi attendue qu'il fût de retour pour ne pas reparaître inutilement chez lui. 2 ou 3 jours après qu'on eût forté de notre part de l'argent à cet inconnu, nous sortîmes entre 11h et midi, Madame Darcy et moi, pour aller à la messe. Oui, c'était un jour de fête. Et en revenant au logis, je crus apercevoir, à 40 ou 50 pas de notre carrosse, une femme que je reconnus pour cette femme de chambre à qui nous avions parlé chez le marquis de Meillery, rue Saint-Louis. Vous vous souvenez bien que je lui avais promis de renvoyer le surlendemain savoir la demeure de Madame d'Arneuil, qu'elle avait pu m'apprendre la première fois, et j'avais exactement tenu ma parole. Mais on avait dit qu'elle était sortie, et par distraction, j'avais moi-même oublié d'y renvoyer depuis quoi que c'eût été mon dessein. Aussi fus charmé de la rencontrer à ce propos, et je la montrai aussitôt à Madame Darcy, qui la reconnut comme moi. Cette femme, qui nous vit de loin, parut nous remettre aussi et resta sur le pas de la porte de l'aubergiste chez lequel nous jugeâmes qu'elle allait entrer. Nous fûmes arrêtés quand nous fûmes près d'elle, et aussitôt elle nous salua. « Oh, je suis bien aise de vous revoir, lui dis-je. Je soupçonne que vous allez chez Madame d'Arneuil ou que vous sortez de chez elle. Aussi, vous me direz sa demeure. » « Si vous voulez bien avoir la bonté, nous répondit-elle, d'attendre que j'aie dit un mot à une dame qui loge dans cette auberge, je reviendrai sur le champ répondre à votre question. » Mademoiselle, je ne serai qu'un instant. Une dame, reprit avec étonnement Madame Darcy, qui savait du maître de l'auberge que notre inconnue était la seule femme qui logea chez lui. Et quelle est-elle donc, ajouta-t-elle tout de suite. Et puis se retournant de mon côté, Mais ne serait-ce pas cette personne pour qui nous nous intéressons, me dit-elle, et à qui il arriva cette triste aventure de l'autre jour ? C'est elle-même, repartit sur le champ la femme de chambre, sans me donner le temps de répondre. Oh, je vois bien que vous parlez d'une querelle qu'elle eut avec l'aubergiste, qui voulait qu'elle sortît de chez lui. Voilà ce que c'est, reprit Madame Darcyre, et puisque vous savez qui elle est, par quel accident se trouve-t-elle exposée à de si étranges extrémités ? Nous avons jugé, par tout ce qu'on nous a dit, que ce doit être une femme de quelque chose. Oh, vous ne vous trompez pas, madame, lui répondit-elle. Elle n'est pas faite pour essuyer de pareils affronts, il s'en faut bien. Aussi en est-elle retombée malade. Je suis d'avis que nous allions la voir, si cela ne lui fait pas de peine, dit Madame Darcyre. Montons-y, ma fille. C'était à moi qu'elle adressait la parole. Vous le pouvez, mesdames, reprit cette femme, pourvu que vous vouliez bien d'abord me laisser entrer toute seule, afin que je la prévienne sur votre visite et que je sache si vous ne la fortifierez pas. Il se pourrait qu'elle vous fît prier de lui épargner cette confusion-là. Non, 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 dit Madame Darcyre, qui était peut-être curieuse, mais qui assurément l'était encore moins que sensible. Non, 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 nous ne risquons point de la chagriner. Elle a déjà entendu parler de nous. Il y a une personne qui, ces jours passés, l'a la voir de notre part, et je suis persuadé qu'elle nous verra volontiers. Prévenez-la, cependant, si vous le jugez à propos. Nous allons vous suivre, mais vous entrerez la première et vous lui direz que nous demeurons dans ce grand hôtel, presque attenant à son auberge, et que c'est notre hôtesse qui va la voir et que nous lui envoyâmes il y a 15 jours. Elle saura bien là-dessus qui nous sommes. Nous descendîmes aussitôt de carrosse et tout s'exécuta comme je viens de le dire. Il n'y avait qu'un petit escalier à monter et c'était au premier sur le derrière. La femme de chambre se hâta d'entrer. Elle avait en effet des raisons d'avertir l'inconnu qu'elle ne nous disait pas. Et nous arrêtâmes un instant assez près de la porte de la chambre vis-à-vis de laquelle était le lit de la malade, de façon que, lorsqu'elle l'ouvrit, nous vîmes à notre aise cette malade qui était sur son séant, qui nous vit à son tour, malgré l'obscurité du passage où nous étions arrêtés, que nous reconnûmes enfin et qui acheva de nous confirmer quelle était la personne que nous imaginions par le mouvement de surprise qui lui échappa en nous voyant. Ce qui fit encore que nous eûmes, elle et nous, tout le temps de nous examiner, c'est que cette porte, qui avait été un peu trop poussée, était restée ouverte. « Eh, mon Dieu, ma fille !» me dit tout bas Madame Darcyre. « N'est-ce pas là, Madame Darneuil ?» Et pendant qu'elle me parlait ainsi, je vis la malade qui joignait tristement les mains, qui me les tendit ensuite en soupirant et en jetant sur moi des regards languissants et mortifiés, quoique tendre. Je n'attendis pas qu'elle s'expliquât davantage, et pour lui ôter sa confusion à force de caresses, je courus tout ému l'embrasser d'un air si vif et si empressé qu'elle fondit en pleurs dans mes bras, sans pouvoir prononcer un mot dans l'attendrissement où elle était. Enfin, quand ses premiers mouvements, mêlés sans doute pour elle d'autant d'humiliation que de confiance, furent passés, je m'étais condamné à ne plus vous revoir, me dit-elle, et jamais rien ne m'a tant coûté que cela. C'est ce qui est le plus dur pour moi dans l'état où vous me trouvez. Je redoublais de caresses là-dessus. Mais vous n'y songez pas, lui dis-je en lui prenant une main, pendant qu'elle donnait l'autre à Madame Darcyre. Mais vous n'y songez pas. Vous nous avez donc cru si sensibles, ni raisonnables. Eh, madame, à qui n'arrive-t-il pas des chagrins dans la vie ? Pensez-vous que nous nous soyons trompés sur les égards et sur la considération qu'on vous doit ? Et dans quel état que vous soyez, une femme comme vous peut-elle jamais cesser d'être respectable ? Madame Darcyre mit à peu près les mêmes discours, et effectivement, il n'y en avait point d'autre à lui tenir. Il ne fallait que jeter les yeux sur elle pour voir qu'elle était hors de sa place. La femme de chambre avait les larmes aux yeux et était à quelques pas de nous, qui se taisait. Vous avez grand tort, lui dis-je, de nous avoir pas avertis de la première fois que nous vous invitions. Je n'aurais pas mieux demandé, nous dit-elle, mais je n'ai pu me dispenser de suivre les ordres de madame. J'ai été 17 ans à son service. C'est elle qui m'a mis chez madame de Viry. Je la regarde toujours comme ma maîtresse, et jamais elle n'a voulu me donner la permission de vous instruire quand vous viendriez. Ne la querellez point, reprit la malade. Je n'oublierai jamais les témoignages de son bon cœur. Croiriez-vous qu'elle m'apporta ces jours passés tout ce qu'elle avait d'argent, tandis que 5 ou 6 personnes de la première distinction à qui je me suis adressé et avec qui j'ai vécu comme avec mes meilleurs amis n'ont pas eu le courage de me prêter une somme médiocre qui m'aurait épargné les extrémités où je me suis vu et se sont contentés de se défaire de moi avec de fades et honteuses politesses. Il est vrai que je n'ai pas pris l'argent de cette fille. Heureusement, le vôtre était venu alors. Votre hôtesse même m'avait déjà tiré du plus fort de mes embarras. Et je m'acquitterai de tout cela dans quelques jours, mais ma reconnaissance sera toujours éternelle. À peine achevait-elle ce peu de mots, qu'un laquais vint dire à madame d'Arcyre qu'il venait de mener son procureur à la porte de cette auberge et qu'il y attendait pour lui rendre une réponse pressée. Bon, je sais ce que c'est, répondit-elle. Il n'a qu'un mot à me dire et je vais lui parler dans mon carrosse, après quoi je reviens sur le champ. Madame, ajouta-t-elle en s'adressant à l'inconnu, ne pensez plus à ce qui vous est arrivé depuis que vous êtes ici. Tranquillisez-vous sur votre état présent, mais voyez en quoi nous pouvons vous être utiles pour le reste de vos affaires. Votre situation doit intéresser tous les honnêtes gens, et en vérité, on est trop heureux d'avoir l'occasion de servir les personnes qui vous ressemblent. » L'inconnu ne la remercia que par des larmes de tendresse et qu'en lui serrant la main dans la sienne. « Il faut avouer, me dit-elle ensuite, oh, que j'ai bien du bonheur dans mes peines, quand je songe par qui je suis secouru, que ce n'est ni par mes amis, ni par mes alliés, ni par aucun de ceux avec qui j'ai passé une partie de ma vie, ni par mes enfants même, car j'en ai, mademoiselle, toute la France le sait, et tout cela me fuit et m'abandonne. J'aurais sans doute indignement péri au milieu de tant de ressources, sans vous, mademoiselle, à qui je suis inconnu, sans vous qui ne me devez rien, et qui, avec la sensibilité la plus prévenante, avec toutes les grâces imaginables, me tenez lieu tout à la fois d'amis, d'alliés et d'enfants. Et sans votre ami que je rencontrais avec vous dans cette voiture, sans cette pauvre fille qui m'a servi, souffrez que je la compte, sans elle et ses sentiments, la rendent digne de l'honneur que je lui fais. Enfin, sans votre hôtesse, qui ne m'a jamais connue, et qui n'a passé son chemin que pour venir s'attendrir sur moi. Voilà les personnes à qui j'ai l'obligation de ne pas mourir dans les derniers besoins et dans l'obscurité la plus étonnante pour une femme comme moi. Qu'est-ce que c'est que la vie et que le monde est misérable ? Eh mon Dieu, madame, lui répondis-je, aussi touché qu'il est possible de l'être, commencez donc, comme vous en a tant prié madame d'Arcyre, commencez par perdre de vue tous ces objets-là. Je vous le répète, aussi bien qu'elle, donnez-nous le plaisir de vous voir tranquille, consolez-nous nous-mêmes du chagrin que vous nous faites. « Eh bien, voilà qui est fini, me dit-elle, vous avez raison. Il n'y a ni adversité, ni tristesse que tant de bonté de cœur ne doit assurément faire cesser. Parlons de vous, mademoiselle. Où est cette mère que vous êtes venue retrouver et qu'il y a si longtemps que vous l'avez vue ? Dites-moi des nouvelles. Est-ce que vous n'êtes pas encore avec elle ? Est-ce qu'elle est absente ? Oh, mademoiselle, qu'elle doit vous aimer, qu'elle doit s'estimer heureuse d'avoir une fille comme vous. Le ciel m'en a donné une aussi, mais ce n'est pas d'elle dont j'ai à me plaindre, il s'en faut bien. » Elle ne prononça ces derniers mots qu'avec un extrême serrement de cœur. « Hélas, madame, lui répondis-je en soupirant aussi, vous parlez de la tendresse de ma mère. Et si je vous disais que je n'ose pas me flatter qu'elle m'aime, et que ce sera bien assez pour moi si elle n'est pas fâchée de me voir, quoiqu'il y ait près de 20 ans qu'elle m'ait perdu de vue. Mais il ne s'agit pas de moi ici. Nous entretiendrons de ce qui me regarde une autre fois. Revenons à vous, je vous prie. Vous êtes sans doute mal servi, vous avez besoin d'une garde. Et je dirai à l'aubergiste, en descendant, de vous en chercher une dès aujourd'hui. Je crus qu'elle allait répondre à ce que je lui disais, mais je fus bien étonné de la voir tout à coup verser une abondance de larmes, et puis revenant à ce nombre d'années que j'avais passé éloigné de ma mère. « Depuis 20 ans qu'elle vous a perdu de vue !» s'écria-t-elle d'un air pensif et pénétré. « Je ne saurais entendre cela qu'avec douleur, juste ciel, que votre mère a de reproches à se faire, aussi bien que moi. Et dites-moi, mademoiselle, ajouta-t-elle sans me laisser le temps de la réflexion, pourquoi vous a-t-elle si fort négligé? Dites-moi la raison, je vous prie. C'est, lui répondis-je, que j'avais tout au plus que 2 ans quand elle se remaria, et que 3 semaines après, son mari l'emmena à Paris où elle accoucha d'un fils qui m'aura sans doute effacé de son cœur, ou du moins de son souvenir. Et depuis qu'elle est partie, je n'ai eu personne auprès d'elle qui lui ait parlé de moi. Je n'ai reçu en ma vie que 3 ou 4 de ses lettres, et il n'y a pas plus de 4 mois que j'étais chez ma tante qui est morte, qui m'avait reçu chez elle, et avec qui j'ai passé 6 ou 7 ans sans avoir eu de nouvelles de ma mère, à qui j'ai plusieurs fois écrit inutilement, que j'ai été chercher ici à la dernière adresse que j'avais d'elle, mais qui depuis près de 2 ans qu'elle est veuve de son second mari ne demeure plus dans l'endroit où je croyais la voir, qui loge pas même chez son fils qui est marié, qui est actuellement en campagne avec la marquise sa femme et dont les gens même n'ont pu m'enseigner où est ma mère, quoiqu'elle y ait paru il y a quelques jours, de sorte que je ne sais pas où la trouver, quelques recherches que j'ai faites et que je fasse encore, ce qui achève de m'alarmer. Ce qui me jette dans des inquiétudes mortelles, c'est que j'ai lieu de soupçonner qu'elle est dans une situation difficile. C'est que j'entends dire que ce fils qu'elle a tant chéri, à qui elle avait donné tout son cœur, n'est pas trop digne de sa tendresse et n'en agit pas trop bien avec elle. Il est du moins sûr qu'elle se cache, qu'elle se dérobe aux yeux de tout le monde, que personne ne sait le lieu de sa retraite. Et ma mère ne devrait pas être ignorée. Cela ne peut m'annoncer qu'une femme dans l'embarras, qui a peur d'être de la peine à vivre, et qui ne veut pas avoir l'affront d'être vue dans l'état obscur où elle est. Et je ne pus m'empêcher de pleurer en finissant ce discours, au lieu que mon inconnue, qui pleurait auparavant et qui avait toujours eu les yeux fixés sur moi pendant que je parlais, avait paru suspendre ses larmes pour m'écouter plus attentivement. Ses regards avaient eu quelque chose d'inquiet et d'égaré. Elle n'avait, ce me semble, respiré qu'avec agitation. Quand j'eus cessé de parler, elle continua d'être comme je dis là. Elle ne me répondait point, elle se taisait, interdite. L'air de son visage étonné me frappa. J'en fus ému moi-même, il me communiqua le trouble que j'y voyais peint, et nous nous considérâmes assez longtemps dans un silence dont la raison me remuait d'avance sans que je la susse, lorsqu'elle le rompit d'une voix mal assurée pour me faire encore une question. « Mademoiselle, je crois que votre mère ne m'est pas inconnue, me dit-elle. En quel endroit, il vous plaît, demeure ce fils chez qui vous avez été la chercher ?»« À la place royale, lui répondis-je alors d'un ton plus altéré que le sien. « Et son nom ?» reprit-elle avec empressement et respirant à peine. « Monsieur le marquis de... » repartis-je toute tremblante. « Ah, ma chère Tervire !» s'écria-t-elle en se laissant aller entre mes bras. À cette exclamation qui m'apprit sur le champ qu'elle était ma mère, je fis un cri dont fut épouvantée Madame Darcy, que son procureur venait de quitter et qui montait en cet instant l'escalier pour revenir nous joindre. Incertaine de ce que mon cri signifiait dans une auberge de cette espèce, qui ne pouvait guère être que l'asile ou de gens de peu de choses, ou du moins d'une très mince fortune, elle cria à son tour pour faire venir du monde et pour avoir du secours s'il en fallait. Et en effet, au bruit qu'elle fit, L'autre et sa fille, tous deux effrayés, montèrent avec le laquais de cette dame et lui demandèrent de quoi il était question. Je n'en sais rien, leur dit-elle. Mais suivez-moi, je viens d'entendre un grand cri qui est parti de la chambre de cette dame malade, chez qui j'ai laissé la jeune personne que j'y ai menée. Et je suis bien aise à tout hasard que vous veniez avec moi. De façon qu'ils l'accompagnèrent et qu'ils entrèrent ensemble dans cette chambre où j'avais perdu la force de parler, où j'étais faible, pâle, et comme dans un état de stupidité, enfin, où je pleurais de joie, de surprise et de douleur. Ma mère était évanouie, ou du moins n'avait encore donné aucun signe de connaissance depuis que je la tenais dans mes bras, et la femme de chambre, à qui je n'aidais point, n'oubliait rien de ce qui pouvait la faire revenir à elle. « Que se passe-t-il donc ici ?» me dit Madame Darcy en entrant. « Mais qu'avez-vous, mademoiselle ?» Pour toute réponse, elle ne reçut d'abord que mes soupirs et mes larmes. Et puis, levant la main, je lui montrai ma mère, comme si ce geste avait dû la mettre au fait. « Mais qu'est-ce que c'est ? » ajouta-t-elle. « Est-ce qu'elle se meurt ?»« Non, madame, lui dit alors la femme de chambre, elle vient de reconnaître sa fille, et elle s'est trouvée mal. »« Oui, lui dis-je alors en m'efforçant de parler. Oui, c'est ma mère. » « Votre mère ? » s'écria-t-elle encore en approchant pour la secourir. « Quoi, la marquise de... Quelle aventure ! Une marquise ! » dit à son tour l'aubergiste, qui joignait les mains d'étonnement. « Oh, mon Dieu, cette chère dame ! Mais que ne m'a-t-elle appris sa qualité ? Me serait bien gardé de lui causer la moindre peine. » Cependant, à force de soins, ma mère, insensiblement, ouvrit les yeux et reprit ses esprits. Je passe le récit de mes caresses et des siennes. Les circonstances attendrissantes où je la retrouvais, la nouveauté de notre connaissance et du plaisir que j'avais à la voir et à l'appeler ma mère, le long oubli même où elle m'avait laissé, les torts qu'elle avait avec moi et cette espèce de vengeance que je prenais de son cœur par les tendresses du mien, tout contribuait à me la rendre plus chère qu'elle ne l'aurait peut-être jamais été si j'avais toujours vécu avec elle. « Intervie, oh ma fille !» me disait-elle, « que les transports me rendent coupable. » Cependant, cette joie que nous avions, elle et moi, de nous revoir ensemble, nous la payâmes toutes deux bien chères. Soit que la force des mouvements qu'elle avait éprouvés eussent fait une trop grande révolution en elle, soit que sa fièvre et ses chagrins l'eussent déjà trop affaiblie, on s'aperçut, quelques jours après, d'une paralysie qui lui tenait tout le côté droit, qui gagna bientôt l'autre côté et qui lui resta jusqu'à la fin de sa vie. Je parlais ce jour-là même de la transporter dans notre hôtel, mais sa fièvre qui avait augmenté, jointe à son extrême faiblesse, ne le permirent pas, et un médecin que j'envoyais chercher nous en empêcha. Je n'y vis point d'autre équivalent que de loger avec elle et de ne la point quitter, et je priai la femme de chambre qui était encore avec nous d'appeler l'aubergiste pour lui demander une chambre à côté de la sienne. Mais ma mère m'assura qu'il n'y avait point chez lui qui ne fût occupé. « Je me ferai donc mettre un lit dans la vôtre, lui dis-je. »« Oh non, me répondit-elle, cela n'est pas possible, non, et c'est à quoi il ne faut pas songer. Celle-ci est trop petite, comme vous voyez. Gardez-moi votre santé, ma fille. Vous reposeriez mal, ici. Ce serait une inquiétude de plus pour moi, je n'en serais peut-être que plus malade. Vous demeurez si près, j'aurai la consolation de vous voir autant que vous le voudrez. » Et une garde me suffira. » J'insistais vivement. Je ne pouvais consentir à la laisser dans ce triste et misérable gîte, mais elle ne voulut pas m'écouter. Madame Darcy entra dans son sentiment, et il fut arrêté, malgré moi, que je me contenterais de venir chez elle en attendant qu'on pût la transporter ailleurs. Aussi, dès que j'étais levé, je me rendais dans sa chambre et n'en sortais que le soir. J'y dînais même le plus souvent, et fort mal, mais je la voyais et j'étais contente. Sa paralysie m'aurait extrêmement affligée si on ne nous avait pas fait espérer qu'elle en guérirait. Cependant, on se trompa. Le lendemain de notre reconnaissance, elle me conta son histoire. Il n'y avait pas en effet plus de 18 ou 19 mois que le marquis, son mari, était mort, accablé d'infirmité. Elle avait été fort heureuse avec lui, et leur union n'avait pas été altérée un instant pendant près de 20 ans qu'ils avaient vécu ensemble. Ce fils qu'il avait eu d'elle, cet objet de tant d'amour, qui était bien fait, mais dont elle avait négligé de régler le cœur et l'esprit, et que par un excès de faiblesse et de complaisance, elle avait laissé s'imbiber de tout ce que les préjugés de l'orgueil et de la vanité ont de plus sot et de plus méprisable, ce fils, enfin, qui était un des plus grands partis qu'il y eut en France, avait à peine près 18 ans, quand le père, qui était extrêmement riche et qui souhaitait le voir marié, avant que de mourir, proposa à la marquise, sans l'avis de laquelle il ne faisait rien, de parler à monsieur le duc de pour sa fille. Et la marquise, qui, comme je viens de vous le dire, adorait ce fils et ne respirait que pour lui, approuva non seulement son dessein, mais le pressa de l'exécuter. Le duc de, qui n'aurait pu choisir un gendre plus convenable de toute façon, accepta avec joie la proposition, arrangea tout avec lui et 15 jours après, nos jeunes gens s'épousèrent. À peine furent-ils mariés que le marquis, je parle du père, tomba sérieusement malade et ne vécut plus que 6 ou 7 semaines. Tout le bien venait de lui, et vous savez que ma mère n'en avait point et que, lorsqu'il l'avait épousée, elle ne vivait que sur la légitime de mon père, dont je vous ai déjà dit la valeur et sur quelques morceaux de terre qu'elle lui avait apportés en mariage et qui n'étaient presque rien. Il est vrai que le marquis lui avait reconnu une dot assez considérable et de laquelle elle aurait pu vivre fort convenablement, si elle n'avait rien changé à son état. Mais sa tendresse pour le jeune marquis l'aveugla, et peut-être fallait-il aussi qu'elle fût punie du coupable oubli de tous ses devoirs envers sa fille. Elle eut donc l'imprudence de renoncer à tous ses droits en faveur de son fils et de se contenter d'une pension assez modique qu'il était convenu de lui faire, à laquelle elle se borna d'autant plus volontiers qu'il s'engageait à la prendre chez lui et à la défrayer de tout. Elle se retira donc chez ce fils 2 jours après la mort de son mari. On l'y reçut d'abord avec politesse. Le premier mois s'y passe sans qu'elle ait à se plaindre des leçons qu'on a pour elle, mais aussi sans qu'elle ait à s'en louer. C'était de ses procédés froids, quoique honnêtes, dont le cœur ne saurait être content, mais dont on ne pourrait ni faire sentir, ni expliquer le défaut aux autres. Après ce premier mois, son fils insensiblement la négligea plus qu'à l'ordinaire. Sa belle-fille, qui était naturellement fière et dédaigneuse, qui avait vu par hasard quelques nobles du pays venir en assez mauvais ordre rendre visite à sa belle-mère, qui la croyait elle-même fort au-dessous de l'honneur que feu le marquis lui avait fait de l'épouser, redoubla de froideur pour elle, supprima de jour en jour de certains égards qu'elle avait eus jusqu'alors, et se relâcha si fort sur les attentions qu'elle en devint choquante. Ainsi ma mère, qui de son côté avait de la hauteur, fut-elle extrêmement offensée, et lui en marqua un jour son ressentiment. « Je vous dispense, lui dit-elle, du respect que vous me devez comme à votre belle-mère. Manquez-y tant qu'il vous plaira, c'est plus votre affaire que la mienne, et je laisse au public à me venger là-dessus, mais je ne souffrirai point que vous traitiez avec moi de politesse que vous n'oseriez même en avoir avec votre égal. Moi, vous manquez de politesse, madame, lui répondit sa belle-fille, en se retirant dans son cabinet. « Mais vraiment, le reproche est considérable et je serais très fâché de le mériter. Quant au respect qu'on vous doit, j'espère que ce public dont vous me menacez n'y sera pas si difficile que vous. » Ma mère sortit outrée de cette réponse ironique, s'en plaignit quelques heures après à son fils et n'eut pas lieu d'en être plus contente que de sa belle-fille. Il ne fit que rire de la querelle qui n'était, disait-il, qu'un débat de femmes, qu'elles oublieraient le lendemain l'une et l'autre, et dont il ne devait pas se mêler. Les dédains de la jeune marquise pour sa mère ne lui étaient pas nouveaux. Il savait déjà le peu de cas qu'elle faisait d'elle et la différence qu'elle mettait entre la petite noblesse de campagne de cette mère et la haute naissance de feu le marquis son père. Il avait plus d'une fois entendu badiner là-dessus et n'en avait point été scandalisé. Ridiculement satisfait de la justice que cette jeune femme rendait au sang de son père, il abandonnait volontiers celui de sa mère à mes plaisanteries, et peut-être le dédaignait-il lui-même et ne le trouvait-il pas digne de lui. C'est tous les folies et les impertinences qui peuvent entrer dans la tête d'une jeune étourdie de grande condition qui n'a jamais pensé que de travers. Y a-t-il de misère d'esprit dont il ne soit capable? Enfin, ma mère, que personne ne défendait et qui n'avait ni parents qui prissent son parti, ni amis qui s'intéressassent à elle, car des amis courageux et zélés, en a-t-on quand on n'a plus rien, qu'on ne fait plus de figure dans le monde et que toute la considération qu'on y peut espérer est pour ainsi dire à la merci du bon ou du mauvais gueur, de gens à qui l'on a tout donné et dont la reconnaissance ou l'ingratitude sont désormais les arbitres de votre sort. Enfin, ma mère, dis-je, abandonnée de son fils, dédaignée de sa belle-fille, comptée pour rien dans la maison où elle était devenue comme un objet de risée, où elle essuyait en toute occasion l'insolente indifférence des valets, même pour ce qui le regardait, sortit un matin de chez son fils et se retira dans un très petit appartement qu'elle avait fait louer par cette femme de chambre dont je viens de vous parler tout à l'heure, qui ne voulut point la quitter et pour qui, dans l'accommodement qu'elle avait fait avec son fils, elle avait aussi retenu 100 écus de pension dont elle a été près de 8 ans sans recevoir un sol. Ma mère, en partant, laissa une lettre pour le jeune marquis où elle l'instruisait des raisons de sa retraite, c'est-à-dire de toutes les indignités qui l'y forçaient, et lui demandait en même temps 2 quartiers de sa propre pension dont il ne lui avait encore rien donné et dont la moitié lui revenait absolument nécessaire pour l'achat d'une infinité de petites choses dont elle ne pouvait se passer dans cette maison où elle allait vivre, ou plutôt languir. Elle le priait aussi de lui envoyer le reste des meubles qu'elle s'était réservés en entrant chez lui, et qu'elle avait pu faire transporter en entier le jour de sa sortie. Son fils ne reçut la lettre que le soir à son retour d'une partie de chasse. Du moins, l'assura-t-il ainsi à sa mère, qu'il vint voir le lendemain et à qui il dit que la marquise serait venue avec lui si elle n'avait pas été indisposée. Il voulut l'engager à retourner. Il ne voyait, disait-il dans sa sortie, que l'effet d'une mauvaise humeur qui n'avait point de fondement. Il n'était question, dans tout ce qu'elle lui avait écrit, que de pures bagatelles qui ne méritaient pas d'attention. Voulait-elle passer pour la femme du monde la plus épineuse, la plus emportée, et avec qui il était impossible de vivre, et 1000 autres discours qu'il lui tint et qui n'étaient pas propres à persuader. Aussi ne les écouta-t-elle pas, et les combattit-elle avec une force dont il ne put se tirer qu'en traitant tout ce qu'elle lui disait d'illusion et qu'en feignant de ne pas entendre. Le résultat de sa visite, après avoir bien levé les épaules et joint 100 fois les mains d'étonnement, fut de lui promettre, en sortant, d'envoyer l'argent qu'elle demandait avec tous les meubles qu'il lui fallait, qui lui appartenaient, mais qu'on lui chargea en partie, et auxquels on substitua de plus médiocres et de moindre valeur, qui par là ne fut presque d'aucune ressource pour elle, quand elle fut obligée de les vendre pour subvenir aux extrémités pressantes où elle se trouva dans la suite, car cette pension dont elle avait prié qu'on lui avançât deux quartiers, et sur laquelle elle ne reçut tout au plus que le tiers de la somme, continua toujours d'être si mal payée qu'il fallut à la fin quitter son appartement et passer successivement de chambre en chambre garnie, suivant son plus ou moins d'exactitude à satisfaire les gens de qui elle les louait. Ce fut dans le temps de ces tristes et fréquents changements de lieu qu'elle se défit de cette fidèle femme de chambre, que rien de tout cela n'avait rebuté, qui ne se sépara d'elle qu'à regret, et qu'elle plaça chez le marquis de Viry. Ce fut aussi dans cette situation que la veuve d'un officier, à qui elle avait autrefois rendu un service important, offrit de l'emmener pour quelques mois à une petite ferme-terre qu'elle avait à 20 lieues de Paris et où elle allait vivre. Ma mère, qui l'y suivit, y eut une maladie qui, malgré les secours de cette veuve plus généreuse que riche, lui coûta presque tout l'argent qu'elle y avait apporté. De sorte qu'après 2 mois et demi de séjour dans cette terre, et se voyant un peu rétablie, elle prit le parti de revenir à Paris pour voir son fils et pour tirer de lui plus de 9 mois de pension qu'il lui devait, ou pour employer même contre lui les voies de justice, si la dureté de ce fils ingrat l'y forçait. La terre de la veuve n'était qu'un demi-quart de lieue de l'endroit où la voiture que nous avions prise s'arrêtait. Ma mère l'y joignit, comme vous l'avez vu, et nous y trouvâmes, Madame Darcy et moi, et voilà de quelle façon nous nous rencontrâmes. Elle n'était point en état de faire de la dépense, elle avait dessein de vivre à part, de se séparer de nous dans le repas, et pour éviter de nous donner le spectacle d'une femme de condition dans l'indigence, elle crut devoir changer de nom, et de prendre un qui l'empêchât de la reconnaître. Revenons à présent où nous en étions. 8 jours après notre reconnaissance chez cet aubergiste, nous jugeâmes qu'il était temps d'aller parler à son fils et que sans doute il serait de retour de sa campagne. Madame Darcy voulut encore m'y accompagner. Nous nous y rendîmes donc avec une lettre de ma mère qui lui apprenait que j'étais sa sœur. Dans la supposition qu'il dînerait chez lui, nous observâmes de n'y arriver qu'à 1h30, de peur de le manquer. Mais nous n'étions pas destinés à le trouver si tôt. Il n'y avait encore que la marquise qui fut de retour, et l'on attendait le marquis que le surlendemain. « N'importe, me dit Madame Darcy, demandez à voir la marquise. » Et c'était bien mon intention. Nous montâmes donc chez elle, en lui annonçant Mademoiselle de Tervire, avec une autre dame, et pendant que nous lui entendions dire qu'elle ne sait qui nous sommes, nous entrons. Il y avait chez elle une assez nombreuse compagnie qui devait apparemment y dîner. Elle s'avança vers moi, qui m'approchait d'elle, et me regarda d'un air qui semblait dire « Mais que veut-elle ?» Quant à moi, à qui ni le rang qu'elle tenait à Paris et à la cour, ni ses titres, ni le faste de sa maison n'en imposait, et qui ne voyait tout simplement en elle que ma belle-sœur, qui n'était d'ailleurs fait annoncer sous le nom de Tervire, dont j'avais lieu de croire qu'elle avait du moins entendu parler, puisque c'était celui de sa belle-mère, j'allai à elle d'une manière assez tranquille, mais polie, pour l'embrasser. Je vis le moment où elle douta si elle me laisserait prendre cette liberté-là. Je parle suivant la pensée qu'elle eut peut-être, qui me parut signifier ce que je vous dis. Cependant, toute réflexion faite, elle n'osa pas se refuser à ma politesse, et le seul expédient qu'elle y sut pour y répondre sans conséquence fut de s'y prêter par un léger baissement de tête qui avait l'air forcé et qu'elle accordait nonchalamment à mes avances. Je sentis tout cela, et malgré mon peu d'usage, je démêlais à sa contenance paresseuse et hautaine toutes ces petites fiertés qu'elle avait dans l'esprit. Notre orgueil nous met si vite au fait de celui des autres, et en général les finesses de l'orgueil sont toujours si grossières, Et puis j'étais déjà instruit du sien. On m'avait prévenu contre elle. Je voyais encore à cela une chose qui n'est pas si indifférente en pareil cas. C'est que j'étais, à ce qu'on disait alors, d'une figure assez distinguée, et je me tenais bien. Il n'y avait personne qui, à ma façon de me présenter, dût se faire une peine de m'avouer pour parente ou pour alliée. « Madame, lui dis-je, je juge par l'étonnement où vous êtes, qu'on vous a mal dit mon nom, qui ne saurait vous être inconnu. Je m'appelle Tervire. » Elle continuait toujours de me regarder sans me répondre, et je ne doutais pas que ce fût encore une hauteur de sa part. « Et je suis la sœur de monsieur le marquis, » ajoutai-je tout de suite. « Je suis bien tâchée, mademoiselle, qu'il ne soit pas ici, » me répartit-elle en nous faisant asseoir. « Oh, il n'y sera que dans 2 jours. » « On me l'a dit, madame, » repris-je, « mais ma visite n'est pas pour lui seul, et je venais aussi pour avoir l'honneur de vous voir. » Ce ne fut pas sans beaucoup de répugnance que j'ai fini ma réponse par ce compliment-là, mais il faut être honnête pour soi, quoique souvent ceux à qui l'on parle ne méritent pas qu'on le soit pour eux. « Et d'ailleurs, » ajoutai-je sans m'interrompre, « il s'agit d'une affaire extrêmement pressée qui doit nous intéresser, mon frère et moi, et vous aussi, madame, puisqu'il regarde ma mère. « Ce n'est pas à moi, » me dit-elle en souriant, qu'elle a coutume de s'adresser pour ses affaires, et je crois qu'à cet égard-là, mademoiselle, il vaut mieux attendre que monsieur le marquis soit revenu. Vous vous en expliquerez avec lui. » Son indifférence là-dessus me choqua. Je vis aux mines de tous ceux qui étaient présents qu'on nous écoutait avec quelque attention. Je venais de me nommer. Les airs froids de la jeune marquise ne paraissaient pas me faire une grande impression. Je lui parlais avec une aisance ferme qui commençait à me donner de l'importance et qui rendait les assistants curieux de ce que deviendrait notre entretien. Car voilà comme sont les hommes. De façon que, pour punir la marquise du peu de soucis qu'elle prenait de ma mère, je résolus sur le champ d'avenir à une discussion qu'elle voulait éloigner ou comme fatigante ou comme étrangère à elle, et peut-être aussi comme honteuse. Il est vrai que ceux que j'avais pour témoins étaient ses amis, mais je jugeais que leur attention curieuse et maligne les disposait favorablement pour moi et qu'elle allait leur tenir lieu d'équité. J'étais avec cela bien persuadé qu'ils ne savaient pas l'horrible situation de ma mère, et j'aurais pu les défier, ce me semble, de quelque caractère qu'ils fussent, raisonnables ou non, de n'en être pas scandalisés quand ils la sauraient. « Madame, lui dis-je donc, les affaires de ma mère sont bien simples et bien faciles à entendre. Tout se réduit à de l'argent qu'elle demande et dont vous n'ignorez pas qu'elle ne saurait se passer. »« Je viens de vous le dire, repartit-elle, que c'est à monsieur le marquis qu'il faut parler, qu'il sera ici incessamment et que ce n'est pas moi qui me mêle de l'arrangement qu'ils ont là-dessus ensemble. »« Mais madame, lui répondis-je, en tournant aussi bien qu'elle, tout cet arrangement ne consiste qu'à s'acquitter une personne, une pension qu'on a négligé de payer depuis près d'un an. Et vous pouvez, sans aucun inconvénient, vous mêler des embarras d'une belle-mère qui vous a aimé jusqu'à vous donner tout ce qu'elle avait. Je lui dis, oui, qu'elle tenait elle-même tout ce qu'elle nous a donné de feu monsieur le marquis, reprit-elle. D'un ton presque moqueur. « Oh, je ne me crois pas obligé de remercier madame votre mère de ce que son fils est l'héritier de son père. Prenez donc garde, madame, que cette mère s'appelle aujourd'hui la vôtre, aussi bien que la mienne, répondis-je, et que vous en parlez comme d'une étrangère ou comme d'une personne à qui vous seriez tâché d'appartenir. Mais qui vous dit que j'en suis fâché, mademoiselle, reprit-elle, et à quoi me servirait-il de l'être? En serait-elle moins ma belle-mère, puisqu'enfin elle l'est devenue, et qu'il a plu à feu le marquis de la donner pour mère à son fils? Faites-vous bien réflexion à l'étrange discours que vous tenez là, madame, lui dis-je en la regardant avec une espèce de pitié. Que signifie ce reproche que vous faites à feu, monsieur le marquis, de son mariage? Car enfin, s'il ne lui avait pas plu d'épouser ma mère, Son fils apparemment n'aurait jamais été au monde et ne serait pas aujourd'hui votre mari. Est-ce que vous voudriez qu'il ne fût pas né? On le croirait, mais assurément, ce n'est pas là ce que vous entendez. Je suis persuadé que mon frère vous est cher et que vous êtes bien aise qu'il vive. Mais ce que vous voulez dire, c'est que vous lui souhaitez une mère de meilleure maison que la sienne, n'est-il pas vrai? Eh bien, madame, s'il n'y a que cela qui vous chagrine, que votre fierté soit en repos là-dessus. Monsieur le marquis était plus riche qu'elle, j'en conviens, et de ce côté-là, vous pouvez vous plaindre de lui tant qu'il vous plaira, je ne la défendrai pas. Quant au reste, soyez convaincu que sa naissance valait bien la sienne, qu'il ne se fit aucun fort en l'épousant, et que toute la province vous le dira. Je m'étonne que mon frère ne vous en ait pas instruit lui-même, et Madame Dacire, que vous voyez, avec qui je suis arrivé à Paris, et dont je ne doute pas que le nom n'y soit connu, voudra bien joindre son témoignage au mien. Ainsi, madame, ajoutai-je, sans lui donner le temps de répondre, reconnaissez-la en toute certitude pour votre belle-mère. Vous ne risquez rien. Rendez-lui hardiment tous les devoirs de belle-fille que vous lui avez refusés. Réparez l'injustice de vos dédains passés, qui ont dû déplaire à tous ceux qui les ont vus, qui vous ont sans doute gêné vous-même, qui auraient toujours été injustes, comme ma mère aurait été mille fois moins que vous ne l'ayez cru, et reprenez pour elle des façons et des sentiments dignes de vous, de votre éducation, de votre bon cœur, et de tous les témoignages qu'elle vous a donnés des tendresses du sien, par la confiance avec laquelle elle s'est liée à vous et à son fils de ce qu'elle deviendrait le reste de sa vie. « Vous feriez vraiment d'excellents sermons, » dit-elle en se levant d'un air qu'elle tâchait de rendre indifférent et distrait. « J'entendrai volontiers le reste du vôtre, mais il n'y a qu'à le remettre. On vient nous dire qu'on a servi dîner. Dînez-nous avec vous, mesdames. » « Non, madame, je vous rends grâce, » répondis-je en me levant aussi avec quelque indignation. « Mais je n'ai plus que deux mots à ajouter à ce que vous appelez mon sermon. Ma mère, qui ne s'est rien réservé et que vous et son fils avez tous deux abandonné aux plus affreuses extrémités, qui a été forcée de vendre jusqu'aux meubles de rebut que vous lui aviez envoyés et qui n'étaient point ceux qu'elle avait gardés, enfin cette mère qui n'a cru ni son fils ni vous, madame, capable de manquer de reconnaissance, qui, moyant une pension très médiocre dont on est convenu, a bien voulu renoncer à tous ses droits par la bonne opinion qu'elle avait de son cœur et du vôtre, elle que vous aviez tous deux engagée à venir chez vous pour y être servie, aimée, respectée autant qu'elle le devait être, qui n'y a cependant essuyé que des affronts, qui s'y est vue rebutée, méprisée, insultée, et que par là vous avez forcé d'en sortir pour aller vivre ailleurs d'une petite pension qu'on ne lui paye point, qu'elle n'avait eu garde d'envisager comme une ressource, et qui est cependant le seul bien qui lui reste, et dont la médiocrité même est une si grande preuve de sa confiance, cette belle-mère infortunée, si punie d'en avoir cru sa tendresse, et dont les intérêts vous importent si peu, je viens vous dire, madame, que tout lui manquait hier, qu'elle était dans les derniers besoins, qu'on l'a trouvée ne sachant ni où se retirer ni où aller vivre, qu'elle est actuellement malade et logée dans une misérable auberge où elle occupe une chambre obscure qu'elle ne pouvait pas payer et dont on allait la mettre dehors à moitié mourante sans une femme de ce quartier-là qui passait et qui ne la connaissait pas et qui a eu pitié d'elle. J'ai dit pitié à la lettre, ajoutai-je, car cela ne s'appelle pas autrement. Il n'y a plus moyen de ménager les termes. Et effectivement, vous ne sauriez croire tout l'effet que ce mot produisit sur ceux qui étaient présents. Et ce mot, qui les remua tant, peut-être aurait-il blessé leurs oreilles délicates et leur aurait-il paru ignoble et de mauvais goût, si je n'avais pas compris, oh je ne sais comment, que pour en ôter la bassesse et pour le rendre touchant, il fallait fortement appuyer dessus et paraître surmonter la peine et la conclusion qu'il me faisait à moi-même. Aussi les vis-je tous lever les mains et donnait par différents gestes des marques de surprise et d'émotion. « Oui, madame, repris-je, voilà quelle était la situation de votre belle-mère quand nous l'avons élevée de voir. On allait vendre, ou du moins retenir son linge et ses habits, quand cette femme dont je parle a payé pour elle, sans savoir qui elle était, par pure humanité, et sans prétendre lui faire un prêt. Elle est encore dans cette auberge où son état ne vous a pas permis de l'attirer. Cette auberge, madame, est dans tel quartier, dans telle rue et à telle enseigne. Consultez-vous là-dessus. Consultez ces messieurs qui sont vos amis. Je ne veux qu'eux pour juger entre vous et la marquise, votre belle-mère. Voyez si vous avez encore le courage de dire que vous ne vous remêlez point de ces affaires. Mon frère est absent. Bien voici une lettre qu'elle lui écrit, que je lui portais de sa part, et je vous la laisse. Adieu, madame. » Une cloche, qui appelait alors mon amie la religieuse à ses exercices, l'empêcha d'achever cette histoire, qui m'avait heureusement distraite de mes tristes pensées, qui avait duré plus longtemps qu'elle n'avait cru elle-même, et dont je vous enverrai incessamment la fin, avec la continuation de mes propres aventures.